Elles sont là, mais est-ce qu'on a encore le jingle drôle de l'âme? Je trouve qu'on met plus assez souvent le lundi, je trouve. Ce jingle historique de drôle de l'âme.
Ouais.
Tu vois? Tu vas voir. Ouais. Tu vas voir que Paul Vexiu va nous retrouver ça, en 2-2. Attention, regarde. Au hasard, comme ça, je te lance. Hop! Jingle drôle de l'âme. Ah. Paul sait plus ce que c'était. Avant, il l'aurait eu. Et là, écoute, je sais pas. Simonet Rovira est là. Bonsoir, Simonet.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
David Lorto, messieurs dames.
Allô, Freunde, salut à tous.
Julien Laurence, à Londres. Salut, Julien.
Good evening, salut à tous.
Et Fred Hermel.
Ah oui.
C'est bien ça.
Hola, chicos.
Salut, Fred.
Ça va?
Bon, excusez-nous, hein, messieurs espagnols, anglais, italiens, il faut forcément qu'on démarre par la compo de Manchester demain soir et les dernières infos du club anglais avec Julien. Mais d'abord, jingle. Voilà.
Il est bon.
Ça, tu vois, il y a quelques années, c'était un réflexe. Paul, il avait le réflexe, notre réalisateur, il mettait ça, bam, ça partait tout seul. Et le mec, il s'encroûte. Tu vois,
il a plus de réflexe. Tu sais ce qui t'attend, quoi.
Il a plus de réflexe.
Il t'attend.
Julien, on t'écoute pour la compo de Manchester United demain soir face au PSG.
Alors c'est assez simple, hein. Il y a pas de grand secret. Solskjaer ne fera pas de.
Avec l'accent anglais, s'il te plaît.
De changement de dernière minute ou de surprise, donc on va avoir des réas dans les buts, bien sûr, une défense à 4 avec Ashley Young arrière droit, Luke Shaw arrière gauche. Non, mais j'ai du mal avec l'accent,
Solskjaer.
Allez.
surtout que Julien a pas l'accent anglais, il a l'accent londonien, c'est très différent.
En plus, ouais. En plus, c'est pas pareil.
Allez, en londonien alors. Allez.
En londonien.
Londonien du Nord.
Bailly et Lindhoff. Mais tu veux que je parle en anglais ou tu veux que je parle en français avec l'accent anglais?
C'est en anglais,
t'as dit.
D'accord. En anglais. So in goal, De Gea, of course, no problem. Right back, Ashley Young. Left back, Luke Shaw. In the center, Victor Lindelof and Eric Bailly, who should be preferred to Phil Jones. Then the three midfield would be Herrera on the right, Matic as the holding midfielder, and Pogba on the left. And then the front three of Martial on the left, Lingard on the right, and Rashford in the center.
Yeah.
Tu compris. Ah.
Bon, t'as donc... vu Fred, c'est ça les Anglais. Attends.
Ah oui, bah c'est ça les Anglais.
Voilà.
Quelle référence? Allez.
Donc il n'y a pas de surprise, les Julien?
Non, pas surprise, non, pas de blessé non plus. Lindelof qui avait pris un petit coup à l'entraînement et qui avait pas fait le déplacement à Fulham samedi, et là sans aucun problème. À part Darmian et Valencia qui sont les deux blessés de longue date, tout le monde est à 100% et tout le monde sera prêt pour le match de demain. Et c'est vraiment l'équipe qui se dégage de toute façon depuis l'arrivée de Solskjaer. À part Bailly et Jones en défense, mais je pense qu'il choisira Bailly. C'est l'équipe qui se dégage vraiment depuis l'arrivée de Solskjaer il y a un mois et demi.
On parle beaucoup de Pogba, mais on parle finalement assez peu de Martial, je trouve.
Ouais, non mais t'as raison. Alors il a eu une petite blessure aussi, donc il a pas joué comme Pogba qui lui a joué tous les matchs quasiment depuis l'arrivée de Solskjaer. C'était pas le cas pour Martial, mais on l'a vu samedi à Fulham où il a marqué un but super, même s'il est bien aidé quand même par une défense apathique de Fulham. Mais c'est vrai qu'il est revenu en pleine forme. Il sent la confiance après le match d'Arsenal. Où il était entré en jeu, il avait marqué en FA Cup. Je l'ai vu à la sortie du vestiaire. Il était, il riait. Il était. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans un état d'esprit comme ça, dans de telle bonne humeur en fait. Et c'est vrai que Solskjaer lui a fait beaucoup beaucoup de bien. Son nouveau contrat lui a fait beaucoup de bien aussi. Et le départ de Mourinho lui a fait beaucoup de bien. Et voilà, il avait juste besoin de se sentir un peu plus aimé. Et c'est le cas. Et il a un talent incroyable. Hein. Encore une fois, j'écoutais l'autre jour une interview d'Ashley Young. Et la question c'était qui est le meilleur joueur techniquement de cette équipe. Et il a répondu sans même réfléchir. Il a répondu Anthony Martial. Il n'y a aucun doute là-dessus. À l'entraînement, il nous met la misère.
Si c'est juste technique, Pogba est quand même supérieur. Hein.
Bah d'après Ashley Young, le meilleur c'est Martial, et il dit à l'entraînement il nous met la misère à tout le monde, on peut pas lui prendre le ballon, il est inarrêtable, et je pense ça joue à pas grand chose, hein, je suis d'accord avec toi Daniel, mais je pense que Martial a quand même un talent assez incroyable.
Techniquement, Pogba c'est quand même mieux. Bref.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais d'après Young, c'était vraiment Martial, mais vraiment sans réfléchir, quoi.
Ashley Young aussi, en termes de technique.
En Angleterre.
Il câline bien le ballon.
Les absences conjuguées, Cavani, Neymar, Meunier.
Ils savent pas qui c'est, donc ils s'en foutent.
Non, mais je veux dire, justement.
Ils savent pas qui c'est, ils s'en foutent,
ou alors, ils sont confiants, du coup.
Non, ils sont confiants. Alors même, j'ai senti aujourd'hui là, en parlant à des gens du club, à des supporters, même des journalistes qui suivent United, même un. J'ai trouvé beaucoup trop de confiance d'ailleurs côté United. Ils sont convaincus qu'ils vont se qualifier.
On a dit hier,
ah, vraiment, mais ils ont pris la confiance énorme, quoi. Et j'ai trouvé un moment, je me suis dit, bah c'est même bien pour le PSG qui soit aussi confiant, parce que je pense qu'ils pensent vraiment que ça va être facile, que demain ils vont jouer haut, qu'ils vont presser, qu'ils vont récupérer le ballon haut, que Rashford va marquer, que Pogba va être très bon, qu'ils vont pas encaisser de but, même si ils concéderont sûrement des occasions, mais je les sens vraiment, vraiment super confiants, quoi. Et je pense que c'est bien pour le PSG, pas trop pour Manchester qu'ils soient aussi confiants. Après, oui, ils trouvent que depuis le tirage, les choses ont forcément changé. Tout ce qui pouvait aller mal pour le PSG depuis le tirage au mois de décembre est allé mal. Le cas Rabiot, la blessure de Neymar, la blessure de Cavani, celle de Verratti entre les deux, et le fait qu'il y ait eu les défaites contre Guingamp et Lyon, et tout ce qui pouvait aller bien pour United est allé très très bien depuis l'arrivée de Solskjaer, et c'est vrai que ils trouvent que c'est maintenant beaucoup plus équilibré, voire même que le favori est United.
On reparlera de foot anglais un peu plus tard, bien sûr, mais juste,
il y a plein de trucs dans l'actu, hein.
Évidemment, mais hier on a eu un débat sur les tirs cadrés. Et en fait, je me suis, vous savez qu'on a un monsieur stat maintenant dans la maison,
oui.
Il s'appelle Loïc. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, tiens, donne-moi voir les tirs cadrés par match dans tous les grands championnats. Moi, hier, je vous ai dit, en Ligue 1, 4. Mais en fait, mon chiffre de 4, il était basé sur les 3 dernières journées. Donc, d'accord, depuis le début de la saison, en Ligue 1, c'est quand même mieux, parce que c'est vrai que 4, c'est flippant. En Ligue 1, c'est 8.
Ah, quand même. On a quadruplé le chiffre de l'année.
Sauf qu'en Liga,
c'était de 2.
En Première Ligue et en Serie A, c'est 9. Et en Bundesliga, c'est 10.
Ouais, 9,93.
Ouais. Non plus dans du double ailleurs.
Quand même, derrière.
T'es derrière en tout. C'est normal que tu sois derrière en ça.
Voilà. Non, mais on est pas largué, Daniel. Il y a de l'espoir.
T'es derrière 8, en
9,
tout.
10. 8, 9, 10. 8, 9, 10.
Ah, écoute, en foot, t'as un avocat de la Ligue 1. Excuse-moi, t'es derrière.
T'as la version optimiste des chiffres et la version pessimiste des chiffres.
D'ailleurs, hier, on était à 2 tirs cadrés par match de Ligue 1 avec Daniel.
On est remonté
à 8 aujourd'hui. J'ai bon espoir que demain, on soit à 12.
Maxime.
Ou alors, en France, on défend mieux et on empêche les attaquants d'être en bonne position.
Ça, c'est la version ultra optimiste.
Écoute, hein.
Bon, alors, j'aimerais qu'on, parce que Ligue des Champions, demain, c'est aussi l'Italie.
Oui,
mon petit Simonet. Donc on va démarrer.
L'Italie parfois. Hein. On est là. On a le candidat numéro 1 au titre.
T'as besoin de nous le rappeler.
Les finalistes surprises de la saison dernière. Donc
jingle. Bravo. Simonet, on verra tout de suite.
On commence par les tops. Bravo. Après cette élimination, on a commencé toute cette ces feuilletons, réseaux sociaux, émissions télé.
C'est pas le panettone, c'est le feuilleton.
Oh, pauvre Simonet.
Donc, la Roma joue demain contre Porto. Donc, c'est l'objet de ton avis tranché de ce soir.
Oui, c'est mon avis tranché. C'est très simple. Je pense que la Roma peut surprendre comme a fait la saison dernière. Et pourquoi pas faire un nouveau grand exploit européen comme la saison dernière.
Ouais, mais l'exploit, c'est pas d'éliminer Porto, rassure-moi.
Si tu élimines Porto, tu arrives en quart de finale. La saison dernière, elles sont arrivées en demi. Donc, j'ai dit attention, la Roma pour faire une autre grosse surprise jusqu'au demi-finale.
Hein?
Et je savais que tu veux.
Quelle équipe de Rome alors? Parce que.
Ouais, parce que celle que j'ai vue contre le Real, moi, c'était pas terrible.
Parce que là, dans les équipes qui jouent les huitièmes, tout le monde espère en quart tomber sur le vainqueur de Porto Romain.
Exactement.
Donc, c'est là la force.
Il a raison, Daniel.
Donc en fait, la Roma battant Porto espérerait tomber dans quel quart? Parce que là,
on sait jamais. L'Ajax élimine le Real Madrid et peut-être
au hasard. Hein.
Donc en fait, ton idée ce soir, c'est de développer un on sait jamais, parce que si c'est
sur
malentendu,
ça passe.
Avec le on sait jamais,
ouais,
il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein.
La saison dernière, personne n'avait pensé que la Roma pouvait battre.
Mais cette année, la Roma, on a l'impression qu'ils mettent pas un pied devant l'autre.
Oui et non. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont.
Défends ton avis quand même.
Défends le oui et non.
Il faut déjà pouvoir les compenser, mon avis.
Pour les défendre. Mais t'as un after, hein. Tu sais qu'on peut pas, nous.
Ouais,
mais bon.
Voyons, innocent, va.
Les pires de la saison de la Roma, c'est passé. C'est-à-dire, c'est vrai que dans cette début de 2019, on a eu la claque incroyable des 7 buts à encaisser face à la Fiorentina en coupe. Mais encore là, on a vu une preuve de force de ces groupes. Et l'homme qui a donné la force, c'est Monchi. C'est-à-dire, Monchi, quand il met sur sa table en disant, si vous voulez virer Di Francesco, vous verrez moi aussi, ça montre qu'il y a un groupe sportif, je ne parle pas des dirigeants, qui sont tous unis, tout derrière, et surtout, il y a des gens qui défendent cette idée des jeux de Di Francesco. Qui, à petit, est en train d'arriver. En début de saison, je disais, attention, parti Nainggolan, parti Strootman, il manque des leaders, il manque des jeux. Aujourd'hui, on trouve des joueurs qui sont en train de prendre leur place, comme Nicolò Zaniolo. Souvenez-vous, premier match de Ligue des Champions, titulaire avec zéro match en pro, titulaire au Santiago Bernabéu. On s'est dit, mais qui c'est qui? Non, c'est les plus grands talents de football italien dans les prochaines 10 ans. On l'a vu, on l'a découvert. C'est un joueur extraordinaire.
Le plus jeune, là?
Ouais.
Ah oui.
C'est un joueur extraordinaire qui aujourd'hui, c'est probablement les deuxièmes noms qui dit Francesco, mais sur la feuille de match, après Daniele De Rossi. Ah donc, Daniele De Rossi, il revient. Il était absent 100 jours. 100 jours, c'est...
100 jours.
100 jours. C'est-à-dire...
Parce que la fin de la vidéo, on pourrait comprendre 5 jours, mais c'est 100, bien 100 non, jours.
5, il y a un cul à la fin. 100 jours.
Vas-y, Simone, enchaîne.
Daniele De Rossi, aujourd'hui, même s'il a 36 ans, même s'il est vieillissant, c'est l'homme sans lequel la Roma ne peut pas être la Roma. C'est-à-dire, c'est le homme qui donne le tempo, c'est le joueur qui donne le tempo, c'est le joueur qui lance les alertes même à ses jeunes coéquipiers, c'est une équipe très jeune, la Roma. Il a besoin de De Rossi. Et les Daniele De Rossi qu'on a vu sur son dernier match face au Milan des 90 minutes, c'est un Daniele De Rossi qui peut tranquillement tenir un choc des huitièmes des finales et on verra si la Roma avance en quart des finales. Les jeunes sont en train de s'améliorer chaque mois, chaque semaine en plus. Je pense à Under, je pense bien sûr à Zaniolo, je l'ai dit. Même Chic est en train de faire des bonnes choses, même s'il est blessé. Les projets Di Francesco, la révolution totale, on vire les vieux, on laisse les jeunes, est en train de prendre petit à petit une bonne direction. C'est pour ça que j'ai dit, la chance de la Roma de tomber sur Porto, et Porto c'est une belle équipe, et c'est un adversaire quand même pas simple. Mais si la Roma élimine Porto, ça va donner les déclics qu'il faut pour se concentrer, pour se donner au fond sur cette Ligue des Champions.
Mais encore faudra-t-il revenir l'année prochaine?
Je pense que l'année prochaine, mais ils ne seront pas.
Ah bah évidemment, ils vont pas y être. Ils sont sixième et ils ont beaucoup trop de retard sur... Enfin non, ils n'ont pas beaucoup
non,
de retard
ils ont pas
sur
Milan. Mais je pense qu'ils ne seront pas en Ligue des Champions. C'est pour ça que je suis convaincu que battre Porto va mettre à la Roma la priorité de la saison, de la vie, la Ligue des Champions, parce que c'est un groupe qui va la jouer encore cette année, je sais pas si la prochaine saison prochaine, j'ai aucune confiance. Mais comme ils sont arrivés la saison dernière en demi, moi je ne vois pas la Roma faire moins bien, même face à un grand.
Bon. Et... voilà. J'ai l'impression que t'es un peu le seul convaincu, parce que, ouais, soit à Londres, à Madrid,
moi je te crois que éliminer Porto, pourquoi pas? Mais après le reste, ok, c'est en quart. Bon, après si le travail de cet entraîneur paye et tout, pour l'instant, je pense qu'il fait plus de déçus que de contents là-bas, parce que je connais la patience autour de ce club. Ça doit pas être terrible. Ouais. Après, s'il a vendu un projet, si dans les années à venir, jugez ça. Après, bon, on verra bien. Hein. Je sais pas trop quoi te répondre en fait. Hein.
Au-delà de ça, qu'est-ce qui a marqué le week-end italien? Plutôt la Juve ou plutôt l'Inter?
Plutôt la Juve, parce que. Bah, la victoire face à Sassuolo, c'est pas une surprise. Sassuolo, c'est une équipe qui, malheureusement, réussit plutôt mal face aux Bianconeri.
Ils vont faire un vaincu cette année, non, les Juves? Personne va les battre, non?
En Serie A, ça va être possible. Après, on verra dans les prochains semaines, mois, qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions. Il y a eu un geste qui a été très important, dont on a parlé énormément aujourd'hui. C'est le fait que Cristiano Ronaldo, quand il marque son but, il va les célébrer avec les gestes que fait Dybala, c'est-à-dire la masque devant le visage, et après il va dédicacer avec les doigts les buts pour Dybala, qui joue pas, qui était 90 minutes sur le banc.
Et que ça veut dire ça
alors? Ça veut dire que
ensemble.
Cristiano, qui est la star, qui comprend les moments difficiles de Dybala, qui n'y joue pas, qui joue 10 minutes hier, qui jouait 0 minutes face au... hier, Allegri l'a encore expliqué une fois, très bien, en disant... Il y avait Benzema au Real Madrid, donc vous comprenez pourquoi je mets Mandzukic. J'ai besoin de quelqu'un qui prend les espaces.
Mais pour jouer de l'autre côté, pour être le troisième homme de l'attaque.
Oui, mais au final,
on l'a vu ça même en Ligue des Champions.
Mais au final, si tu joues avec trois hommes comme ça, tu as besoin d'un milieu qui fait seulement de la récupération. Si tu mets les trois devant comme ça, même si Mandzukic fait un travail défensif important, avec Dybala, doit jouer Betancourt. Sans Dybala peut jouer Khedira. Khedira hier était l'homme qui, avec Mandzukic, a été plus de fois dans la surface. C'est un joueur qui a marqué les premiers buts, qui encore voit les jeux beaucoup mieux que Bettencourt, et encore plus déterminant, plus expérience. Mais c'est quelqu'un qui cherche d'avancer plus. Bettencourt, c'est vraiment plus récupérateur.
S'il met ces trois-là, c'est quoi? C'est trop offensif? Après, s'il met ces trois, quand il le faisait au début de la saison,
il faut qu'un milieu un peu plus travaillé.
De latéraux comme Alexandre et Cancelo. Au final, t'as besoin quand même d'un milieu qui travaille.
Et ben alors,
Matuidi travaille pour 14.
Et alors, ben donc il y a Matuidi, Pjanic, et qui est le troisième?
C'est Khedira. S'il y a Khedira, il n'y a pas Dybala. S'il y a Bettencourt, il peut avoir Dybala. Parce que Khedira, il a un profil qui cherche plus la surface, qui va plus dans la profondeur, ouais, qui est plus milieu offensif, même si c'est pas milieu offensif.
Je vois pas en quoi Khedira, Pjanic, Matuidi et les trois devant,
surtout,
ça serait un problème.
Surtout en Serie A, quoi.
Non, mais c'est même pas Serie A.
Si,
Serie A, on s'en fout, ils se baladent, mais je parle.
Voilà, c'est ça. Après, en Ligue des Champions,
ils sont en Ligue des Champions suivant. Ils ne pensent qu'à un champion.
En Ligue des Champions suivant l'adversaire, je peux plus rejoindre.
C'est pour ça, c'est là que ça m'intéresse.
Retenons que l'assurance totale de Simonet ce soir, il arrive 23h17, il nous dit la Roma va aller en demi et la Juve va gagner. Donc, très bien.
Voilà, je voulais donner un peu des.
Non, mais très bien.
La Juve pour l'Atlético, tu dis?
Non mais il a dit que la Juve était le favori numéro 1,
le favori pour la saison, pour la victoire finale pour moi. Voilà. Après, je l'ai dit depuis le début de la saison, je change pas mon idée et mon avis. Ce soir, dernière chose sur l'Italie parce que je sais que après la Ligue des Champions c'est moins intéressant, mais il faut le dire. Premier but de cette semaine de Paqueta. Paqueta, c'est la pépite sur laquelle Leonardo a misé énormément en janvier.
Oui,
5 millions, les brésiliennes.
Petit paquet, là.
Qui, il est arrivé 7 matchs, 7 fois titulaire. Gattuso a dit, je m'attendais pas de voir un jeune brésilien déjà, si prêt pour notre championnat, niveau tactique, technique, mais surtout dans les travails défensifs. Et là, premier but, et les dernières milieux de terrain brésiliens qui avaient marqué un but avec Milan, c'était Kaká. Et en Italie, on a déjà parti sur la folie, Paqueta, les nouveaux
Kaká. Avant que Kaká devienne nul au Real.
Il y a même des t-shirts.
Avant le t-shirt. Voilà. Et mais dis donc, est-ce que ça fait événement en Italie le fait d'envisager que Milan revienne en Ligue des Champions? Parce que là, ils sont dans la zone pour être en Ligue des Champions, là. Donc est-ce que, je sais pas moi, est-ce que Leonardo dit déjà on va recruter beaucoup, on aura des moyens pour recruter?
Il fait profil très bas.
Profil bas, oui, mais est-ce qu'on envisage qu'il y ait assez d'argent pour être un acteur pas
non,
majeur
parce
mais
qu'ils
important?
Ils ont dépensé beaucoup en janvier, 35 pour Piontek, 35 pour Paqueta. On sait que c'est sous contrôle de fair play financier. Il doit payer 35 millions s'il veut garder Bakayoko, encore une fois un des meilleurs du Milan, joueur qui
ça y est, il s'est mis là, Gattuso l'a dressé là.
Pour ça,
ça fait un petit moment qu'il aime
je peux pas, je peux pas tranquillement dire que s'il y a un joueur à sacrifier au milieu de terrain, c'est Kessi, c'était cet été pour avoir l'argent pour garder Bakayoko.
Vinicius, il a piqué, mais il est con ce Vinicius ou quoi?
Qu'est-ce que c'est ça, Fred?
Bon, c'est Fred,
c'était l'autre jour, il y avait un contre.
J'identifie parfaitement l'action sur laquelle il a pu dire ça, et je pense que n'importe qui devant la télé a dû dire pareil, c'est affolant qu'il ait fait ce qu'il a fait. Tu te dis, mais il a débranché le cerveau ou quoi?
J'ai pas vu l'action, c'est
incroyable. Je comprends.
Non, mais c'est un truc, il veut garder le ballon, il viande un contre énorme en piquant la balle à Benzema, quoi. Donc pour moi, c'est impardonnable de piquer la balle à Benzema, vous le savez.
Tu voulais justement parler du Real et de Solari.
Bah oui, parce que Ligue des Champions, le Real Madrid va débuter mercredi soir à Amsterdam, son 8e de finale contre l'Ajax. C'est vrai qu'il y a un mois, on donnait pas. Je peux même vous dire qu'au sein du Real Madrid, on trouvait que la jeunesse de l'Ajax pouvait être un problème face à ce Real démotivé, fatigué, pas en forme et dans une mauvaise spirale. Et là, c'est
pas d'un coup, on se dit qui va pouvoir les éliminer en deux matchs.
Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment été impressionné. J'étais bien entendu au Wanda Metropolitano lors du derby ce week-end. Victoire avec beaucoup d'autorité d'un Real qui a retrouvé une forme physique éclatante. Tiens, comme par hasard, Antonio Pintus est revenu aux affaires puisque Lopetegui est parti avec son préparateur physique.
Ramos, il faut aussi peu de temps pour remettre une équipe en forme physique.
Non mais déjà.
Ça va finir par faire jaser quand même. Hein.
Non mais fais attention avec ce genre de choses.
Déjà, tout simplement
parce qu'il y a des préparateurs physiques qui ne font que de la baballe tout ça. Avec Pintus, il y a du foncier quoi. Voilà.
Ouais. Mais en si peu de travail, temps, redresser des
mecs. En si peu de temps, il est arrivé le 29 octobre. Hein.
Ouais, c'est.
On est en février.
Ouais, mais normalement, le travail.
Ouais, mais tu sais que c'est pas si long que ça pour de la préparation physique.
Ça, mais déjà, ça va beaucoup mieux. Voilà.
S'il a juste fait un suivi de certains mecs qui étaient moins bien, on sait pas. Faut dire, faut rentrer.
Non, mais déjà, les méthodes de Pintus, on sait très bien qu'il y a, c'est chiant pour les joueurs parce qu'il y a un gros travail physique sans ballon qui fait chier les joueurs, mais qui paye un moment ou un autre.
Pourquoi tout le monde ne fait pas comme lui, en fait?
Mais parce que la mode, c'est ballon, quoi.
Non, mais moi, pardon, mais tu peux pas avoir, tu peux pas, enfin, je sais pas, de l'expérience que de ce que je vois, de ce que font les clubs pro, tu ne peux pas être dans une condition physique optimale en ne faisant que jouer au ballon.
Bah non.
Ou alors, tu sais
quoi, c'est la mode, ça.
Ou alors, il faut que t'aies un groupe de joueurs ultra professionnels sur chaque séance. Et que ce que tu demandes de faire avec le ballon, tout le monde le fait avec une volonté de travailler.
Piltus, c'est l'idée très, très bien. Non, mais sauf que Piltus, il y a beaucoup de travail sans ballon.
Moi aussi, j'ai
Lui estime que, il faut, bien sûr, du travail ballon, etc. Mais que pour avoir un fond physique important, il faut un truc basique. Sans quand Zidane est revenu, la première fois,
c'est qu'il a refait des footings. Il a refait des footings. De saison de fractionner ou quoi que tu tiens la saison ça s'entend
non t'as des temps voilà. Pareil dans la saison tout au long de
mais
la saison
il a quand même un truc ce mec bon, on peut dire ce qu'on veut là, mais dans tous les clubs où il est passé ça a marché sa méthode à Pintus donc
ça peut être ce qu'il a aussi c'est sa crédibilité où les joueurs ferment leur bouche quand tu leur demandes de faire quelque chose
exactement ça doit compter, c'est exactement ça
parce que ça a fait ses preuves.
Pierre, c'est exactement ça. Ouais. Et des joueurs qui étaient très réticents au départ, parce qu'on trouvait que c'était des méthodes à l'ancienne, tu vois, que de faire du footing, c'est à l'ancienne, que de monter les marches du Bernabéu, c'est à l'ancienne, mais ils font ça, tu vois. Et c'est une méthode qui fonctionne. Mais bon,
Préparateur physique, Fred, qui a 20 ans de moins d'expérience, ou qui démarre, qui va demander la même chose, bah les joueurs vont lui ronner, ou en tout cas pas le faire sérieusement.
Exactement. En tout cas, ça passe.
Moi, j'aimerais aussi la façon dont on présente le préparateur physique dans le groupe, c'est-à-dire comment on le
l'importance qu'on lui donne.
Eh ben oui, l'importance que l'entraîneur et le club lui donne.
Bien sûr.
Mais bon, c'est pas tout, c'est pas que Pintus. Simplement, il y a un super entraîneur qui s'appelle Solari, qui a fait des choix forts. Marcelo, aujourd'hui, n'est plus capable de jouer au Real Madrid. C'est un fait. Il a 7 kilos de trop.
7, c'est beaucoup quand même.
7. Franchement, tu le vois, et puis le maillot blanc, ça aide pas. Hein.
Mais qu'est-ce qu'il a bouffé?
Comment il a fait pour prendre 7 kilos? Ou t'es moins concerné pour en prendre 7.
Mais c'est catastrophique, Marcelo.
Qu'est-ce qu'il a bouffé?
Mais il joue plus.
Au but,
déjà.
Parce que ça
donc,
peut être ça aussi.
Donc, ça veut dire, il y a le jeune Reguilón qui joue à plat. Ouais. C'est, tu sais, quand t'es Solari.
Il est passé de meilleur latéral du monde à bidon, quoi.
Bah, bidon, aujourd'hui, il joue plus parce que, et d'ailleurs,
le bidon, il l'a, mais quand on regarde
les matchs avec Marcelo, il est à une connerie, voire deux par match. Donc, ce qu'il y a, là, Solari, avec le peu de curriculum qu'il a, eh ben, Solari, il a pris une décision forte, il a mis Marcelo sur le banc. Et c'était le jeune Reguilón qui a joué au Wanda Metropolitano lors du derby, et il a été très bon. Vous avez un Solari qui a pris la décision de miser sur le jeune Vinicius, qui fait des erreurs, mais qui a encore provoqué un pénalty, qui est la fraîcheur de cette équipe, alors que n'importe quel entraîneur dirait, bah, c'est Bale.
Là, c'est sûr que Vinicius, parfois, il fait des trucs complètement cons, c'est le cas de le dire.
Ouais,
c'est le tic-tac de l'équipe.
C'est vrai. Alors, il peut énerver parce que dans le dernier geste, il a encore beaucoup à apprendre. Il a 18 ans. Mais là, il a un tel culot que il y a une telle fraîcheur. Il tente des choses incroyables. Il a fait ça au Camp Nou, il a fait ça au Wanda, que aujourd'hui, il est incontournable. Et que Bale, par exemple, était remplaçant lors du derby.
Ah, mais Bale, il fait quand même, hein.
Il fait une entrée géniale. Oui, mais on peut dire que Solari il a raison, parce que quand t'es Solari, tu dis oh là là, la star Bale, choix du président, payé 91 millions, je vais le mettre titulaire. Bah non, il a les cojones de mettre un petit jeune.
Et puis Bale, il avait besoin de cette insouciance aussi. C'est ça aussi.
C'est sûr. Bah oui. Non, mais on peut reconnaître que.
Pense qu'il va garder sa place, Solari.
Bah ça dépend des résultats.
Ouais, mais qu'est-ce qui serait aujourd'hui, parce que champion, ça paraît quand même très compliqué.
Ouais, ils seraient
champions. 6 points.
Ouais,
c'est il y en avait 10 il n'y a pas si longtemps.
Qu'est-ce que, à moins de regagner encore avec des champions, ce qui serait quand même complètement dingo, qu'est-ce qu'il peut faire?
Bah, tout dépend de la tendance, c'est-à-dire que si le Real Madrid perd en demi-finale de Ligue des Champions, on gagne la Coupe du Roi, qui est pas un truc impossible puisqu'ils ont quand même fait un très bon résultat en demi-finale.
Voilà.
Tu vois, et que tu finis à 2 points
du
Barça.
Non, mais que dit l'environnement
Ah, ils en sont très contents de Solari. Parce
c'est
que
c'est un mec de la maison et tout, c'est pas exclu qu'il reste.
Ah, et puis il y a un petit exemple d'un type comme ça qui s'appelait Zidane, je sais pas si vous connaissez, et qui avait démarré comme ça. Il prend l'équipe où ça va mal au mois de janvier et puis puis finalement, il y a 9 titres en 2 ans et demi. Donc le syndrome Zidane avec Solari. En plus, Solari, ça compte aussi dans un club comme le Real. Il est très intelligent dans les conférences de presse, dans sa com. C'est-à-dire qu'il est très fort et il évite les incendies et il a réussi à retourner tout le monde. C'est quand même un type qui a fait disparaître de l'équipe un joueur comme Isco, par exemple. Alors que Isco, c'est l'un des meilleurs joueurs espagnols sur le papier, qu'il est très apprécié par les supporters. Bah voilà, il prend des décisions fortes. Il dit de toute façon, je sais pas combien de temps que je suis là, mais tant que je serai là, c'est moi.
Et après, on va plus avoir le temps. J'aimerais un mot sur le Barça, surtout sur l'Atlético et Griezmann.
Alors d'abord, comment va Messi? Parce que dans une semaine, on a Lyon-Barça.
Voilà. Bah Messi, il joue sur une jambe. Et le Barça ment depuis la blessure, le match contre Valence il y a 10 jours.
C'est lui, il veut pas se reposer.
Mais le problème, c'est qu'on voit bien que quand il joue pas, c'est compliqué, quoi. Donc, je suis pas sûr que le Barça ait beaucoup le choix.
Ah, il y a pas que le PSG qui met pas toutes ses stars sur le côté. Alors avant les matchs de Coupe d'Europe.
Bah non.
Il y a Barça aussi. Bah tiens.
Et donc, bon alors, la chance du Barça, c'est que le match, c'est pas maintenant, c'est dans une semaine, et qu'il y aura, il y a toute la semaine pour se reposer, donc ils ont même 3 jours de repos, etc. Mais Messi, on voit très bien hier, il est à 50%.
Hier, 0-0 à Bilbao.
Ouais, et encore, je peux passer à mon cador, Ter Stegen, ce qu'il fait hier, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, Ter Stegen, il fait 2 arrêts, mais d'extraterrestre. C'est un truc de malade. Le Barça ramène 1 point de Bilbao parce qu'il y a Ter Stegen. Ce mec-là, vous savez, j'en rajoute beaucoup avec Oblak, mais Ter Stegen, c'est pas mal non plus.
Qui revendique Fred maintenant le leadership aussi en sélection nationale, enfin en équipe d'Allemagne.
Je vois pas comment la question peut se poser aujourd'hui, quoi. Ter Stegen est l'avenir. C'est un type qui fait gagner des points, mais des dizaines de points par saison au Barça.
Quoi, en Allemagne déjà Neuer dehors.
Lui commence à faire des sorties dans la presse pour dire maintenant c'est moi le meilleur, quoi.
Il est le meilleur. Il est meilleur.
Les Allemands, ils sont comme ça. Ils disent des choses. T'imagines un mec dire ça chez nous, ça.
Enfin, que lui il dise, c'est une chose. Après qu'on le.
Après t'as le
meilleur. Non mais David, tu vois des matchs un peu de Ter Stegen.
Dis-moi, la frappe de McFadden, je l'aurais arrêté. Tout le monde lui est tombé dessus. Alors ça se trouve, ça aurait été vrai.
Ah bah de toute façon, il l'aura arrêté. Ou d'autres ont voulu arrêter d'être numéro 2 ou numéro 3 en équipe de France et on leur est tombé dessus aussi.
C'est vrai.
Et dis-moi.
Simplement parce que David, toi qui vois les matchs de Ter Stegen. Parce que pour terminer le débat là-dessus, il est meilleur que Neuer ou pas aujourd'hui?
Là, maintenant, sur cette saison, bien sûr, il n'y a aucun doute.
C'est hallucinant. Ter Stegen, mais je sais pas le nombre d'arrêts décisifs qu'il a fait, le nombre de points qu'il a fait gagner cette saison, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, Ter Stegen est avec Oblak, le meilleur gagnant au monde.
Dans le derby, on a vu Griezmann qui a été bon, hein,
qui a marqué, seul, hein.
Machin, voilà. Bon. Mais justement, je voulais en venir à ça. Donc, Griezmann, il est resté à l'Atlético cette année avec toute la mise en scène qu'on a racontée cet été. Il y a eu également beaucoup de propos post-mondial, aussi bien liés à l'équipe de France que à l'Atlético et le lien qu'il faisait un peu entre les deux équipes. Tu crois vraiment il va pas en avoir marre à un moment d'être dans une équipe comme ça parce que franchement c'est un joueur de grande classe. C'est que cette année tu sais il a mis combien de buts? Il est à 10 buts. En tout cas, il est en
10 buts
12.
En Liga, donc il est à 16 buts toutes compétitions confondues.
Bon, tu vois il est pas
c'est pas mal quand même.
Mais il est pas dans des standards très élevés. Permets-moi d'imaginer que dans une autre équipe, il serait déjà plus haut. Tu crois lui dit s'éclater dans ce jeu-là? Moi, je veux bien le croire, mais il va pas avoir envie de jouer autrement au foot à un moment, quoi. D'aller mettre son talent dans une équipe qui joue. Plus forte dans le jeu. Ça va. Moi, j'adore l'Atlético. On aime tous et tout ça. Bon, historiquement, on leur en veut moins dans ce championnat-là d'être l'équipe qui joue moins bien que les deux autres. Tout est toujours une affaire de contexte culturel. J'aime bien le rappeler. Mais à un moment, Griezmann, putain, merde, qu'il a joué dans une équipe de ballon, quoi.
Alors. Griezmann est très bien dans cette vie-là.
Ouais, écoute, ok, c'est son Madrid. Choix. Si c'est son choix, il n'y a rien à dire.
Bah voilà, c'est Madrid, sa femme voulait pas partir.
Bien sûr.
Il va être papa pour une deuxième fois, il est heureux comme
jamais
dans sa vie.
Mais je peux, après, vivre à Madrid, dans un club pareil, problème.
Mais on a le droit,
bien sûr, c'est respectable.
Je suis dans une belle équipe, mais j'habite dans une ville que j'adore, ma femme est heureuse, j'ai 2 enfants. Voilà. Il y a un choix de vie au-delà du football, et puis attends, il y a pire dans la vie que de prendre 20 millions nets par an, après impôts, d'être avec un entraîneur fabuleux qui s'appelle Simeone, de jouer dans un stade magnifique où il y a 65 000 personnes qui t'adulent.
Non mais je suis d'accord, Fred.
Je
réponds. Non mais c'est
dit comme ça, il y a rien pas, à dire quoi.
Je réponds à ta question, tu vois. Bah, bien sûr que Griezmann à un moment.
Ouais.
Oh, oui. Ça va.
Ouais, tu sais, je mange en terrasse ce week-end, moi. C'est avec un pull.
Non, mais ta réponse, voilà.
Tu doudounes.
Je réponds à ta question. Ta question, elle est tout à fait légitime,
j'ai
Daniel.
Plus, j'ai plus qu'à me taire, t'as raison.
Et je réponds à ça, quoi. Maxime, parce que, Maxime, vous voulez poser une question?
Maxime va te l'envoyer à Manchester.
Ouais. Non, pas spécialement à Manchester, mais.
Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se le payer, Marc.
Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent le payer, c'est sûr. Après, je pense qu'en Angleterre, ils sont quand même bien fournis pour sortir le chéquier. Mais bon,
mais à un moment, entre gagner 20 millions et gagner 30 millions,
la vie est moins bonne. Mais par contre, si l'Atlético rentre dans une spirale où sur 2-3 saisons, c'est moins bien, ils sont loin de la première place et qu'en Ligue des Champions, ils ont plus de mal, est-ce qu'ils ne seraient pas amenés à.
Lui, il a le caractère pour être un joueur qui bouge pas parce qu'il adore l'endroit. Il est comme ça, ouais, lui.
Ouais. Puis là, il a une fraîcheur, il a une joie de vivre qui est géniale.
Au contraire, ça lui plaît. Côté, le mec qui bouge pas, même si l'équipe devient moins forte, je suis le taulier de l'équipe, je suis l'historique. Ouais. Il a ce côté-là, lui.
L'Atlético moins fort, j'y crois pas, parce que alors Godin va partir, mais le meilleur, je vous dis, le meilleur défenseur central des prochaines années, qui s'appelle Lucas Hernandez. L'Atlético va allonger, il va rester, c'est Godin qui va partir, Oblak va rester, Griezmann va rester, t'as le jeune Rodri, on parle pas assez de lui.
Et Lemar, à quel moment il va être vraiment bien?
Allez, vite,
très mauvais match.
Bah, il y est pas du tout, il faut dire ce qu'il est cette année, c'est une année où il apprend.
Bah, il y a des moments mais à partir du moment où il travaille, où il écoute son coach, il fait tout pour il faut un certain temps pour s'habituer à tout ça, mais Simeone l'aime bien, donc il va rester quoi.
On est gauchers tous les deux, je précise.
T'es pas gaucher, toi.
Wow, si, ce qui t'a mis, là.
Ah, t'es gaucher? Ah, ça m'inquiète, alors. Franchement, je l'ai vu jouer au foot. Si
mais toi, non, tu m'as pas vu jouer. Tu peux pas juger un joueur sur 5 minutes.
certains joueurs, ça suffit, David.
Oui, donc moi, par exemple.
Ça suffit. Même moi, par contre.
Moi, je regarde le physique d'un mec et je sais s'il est technique ou pas.
Bon, non.
Oui.
Ben non. T'as des contre-exemples, quand même.
Très peu.
Robert Pires.
Je ne me trompe pas beaucoup. Non.
Ok.
Bon, en tout cas, ton avis du soir, ça concerne Dortmund, mon coco.
Devant moi, bouge et marche, je vois quel genre de...
Ça concerne effectivement Dortmund.
Tu rentres pas dans le département scouting d'un grand club, parce que t'es vite très
vous permettez que David Dorto parle de Dortmund.
On tient quelque chose quand même, t'imagines le club où Daniel signe, il y a plus qu'une erreur de recrutement, quoi. Et en 5 secondes, c'est réglé, quoi. Le mec parle devant Daniel, bim, c'est bon.
En fait, tu fais vraiment exprès de jamais comprendre ce qu'on dit.
Bah, là, j'ai bien compris ce que tu m'as dit.
Bah non, pas du tout.
Bah si, tu m'as dit le mec se met devant moi, marche.
Si le mec sait jouer avec le ballon, ça veut pas dire que ça va faire un performeur de malade ou un compétiteur ou un mec qui peut signer dans un grand club. Je te dis la façon dont il joue au foot.
Moi, je rejoins Daniel sur un point, c'est que la première fois que j'ai vu Jean-Louis Tour, je me suis dit lui, il est gardien de but.
Ah, bien sûr. Par exemple.
En fait,
le jour où je hurlerai en allemand sur le plateau, peut-être que ça aura de l'effet, non, Gilbert, tu penses pas?
Tu pourrais essayer.
Non, pas ce soir. Oui, Dortmund. Dortmund va jouer ce mercredi à Tottenham, à Wembley. Et il est question d'une mini-crise à Dortmund, puisque depuis 3 matchs, un match nul, un partout contre Francfort d'abord en ayant mené au score, un match perdu au tir au but contre le Werder Bremen en coupe, alors qu'on a mené 2 fois en prolongation, 2-1 et 3-2,
et là,
élimination.
Ce week-end,
ce week-end, on mène 3-0 à la 75e minute. Isaac Belfodil se réveille avec Hoffenheim et plante Dortmund 3 buts partout à l'arrivée.
3-0, 75e, c'est
75e.
Dingue.
Pour un match qui, du coup, est considéré comme une défaite à Dortmund. Donc, ça fait 3 matchs consécutifs où Dortmund a perdu un peu les pédales. Et pourtant, mon avis tranché ce soir, Gilbert, contre vents et marées, avec beaucoup de courage, c'est une méthode Coué peut-être aussi un peu, consiste à dire que Dortmund, va se refaire dès cette semaine en Ligue des Champions à Tottenham, à Wembley.
Ah, Simone le retour.
Parce que, en fait, il y a tout un tas de petites raisons qui permettent de défendre Dortmund. Dortmund n'avait pas son entraîneur ce week-end en championnat. Fortement grippé, Lucien Favre était cloué chez lui. Et sa conversation au téléphone avec son équipe à la mi-temps n'a pas suffi pour que ses joueurs maintiennent le 3-0 et finissent par finalement s'écrouler en fin de match. Retour donc de Lucien Favre, du moins s'il est rétabli et il sera sur le banc. Et ce sera évidemment très important pour l'équilibre psychologique et tactique de cette équipe de Dortmund en Ligue des Champions. C'est une première raison. Deuxième raison, cette équipe, et ça a été évidemment dit dans la presse ces derniers jours, est une équipe encore très jeune, qui apprend beaucoup, qui fait des erreurs encore cette saison, Et à force de faire des erreurs, on finit par quand même retenir la leçon, surtout lorsqu'il faut se concentrer pour un huitième de finale de Ligue des Champions. On peut imaginer que Dortmund, qui a eu des déconcentrations en coupe et surtout en championnat, soit plus concerné pour un match de Ligue des Champions. Je m'avance pas beaucoup en disant ça. Par ailleurs, il y a des joueurs qui ont été absents, et notamment ce week-end, une absence essentielle sur laquelle je veux insister lourdement, à côté d'Axel Witsel, c'est le Danois Delaney, qui est un joueur essentiel, notamment dans le jeu de tête à Dortmund. Ils se sont écroulés en fin de match sur les coups de pied arrêtés, notamment en championnat.
Delaney, si tu préfères. Non, c'est pour savoir que...
Delaney. Enfin, on voit un peu quel joueur c'est, en tout cas l'international danois.
C'est pas Schmiedebar.
Non. Exact. Hommage à Apollo.
Exact.
Et lui va être évidemment essentiel dans ce match-là pour équilibrer un peu le milieu de terrain, parce que c'est un peu là que ça a pris l'eau ce week-end en championnat, et aussi pour être un homme fort dans les coups de pied arrêtés, puisque ça a été l'un des soucis de Dortmund ce week-end. Et puis Dortmund, il y a quand même beaucoup de joueurs encore en forme. Jadon Sancho a été magnifique vraiment ce week-end. Il a reçu la note de 1 chez nos amis du Kicker, ce qui est pas si fréquent quand même. Même s'il a loupé le
match. C'est inversé chez Kicker.
Ah oui, c'est la meilleure note. C'est pas un sur 10.
On a perdu l'ortho, mais.
Il a loupé le 4-0, certes. Mais il a quand même livré un match magnifique. Il sera là en Angleterre. Il voudra briller. Il y a plein de petites raisons, et je vais m'arrêter là pour pas perdre du temps de parole pour la suite. Dortmund a toutes les cartes en main pour se relever contre Tottenham à Wembley. Et ce serait justement un environnement et un contexte magnifique pour livrer un bon match.
Lewandowski ou Rudi Assauer?
Alors, il faut absolument, Gilbert, qu'on rende rapidement, je vais faire un tunnel de 30 secondes, vous allez me le permettre, qu'on rende hommage à un homme qui a été une légende, qui a été un colosse de la Bundesliga et du foot européen en général. L'homme pour lequel les brassards noirs ont été mis sur les biceps des joueurs ce week-end en Bundesliga, c'est Rudi Assauer, Monsieur Schalke. Monsieur Schalke a été, l'égal d'Uli Hoeness. Il est le seul dans l'histoire de la Bundesliga à avoir été comme manager l'égal d'Uli Hoeness. Il a gagné avec Dortmund comme joueur sur le terrain, c'était un magnifique joueur, la Coupe d'Europe en 1966. Il a été dans la foulée manager très jeune à 32 ans avec le Werder Bremen d'Otto Rehagel, qui était l'entraîneur à l'époque, un mythe absolu en Bundesliga. Il a ensuite Otto Rehagel dans les années 80.
Ah oui.
Il était manager à Brême, il y a passé 6 ans et il a eu des succès avec le Werder, avec Otto Rehagel. Il est ensuite devenu l'homme fort de Schalke. Il a eu sous ses ordres l'entraîneur du siècle qu'il a fait venir des Pays-Bas, Huub Stevens, à Schalke. C'est avec lui que l'année suivante, 1987-97, il gagne la Coupe d'Europe avec Schalke, qui en a fait un mythe absolu, le héros vraiment de la Ruhr. Il est champion des cœurs en 2001 lorsque le Bayern chipe le titre à Schalke à la 94e minute sur un coup franc incroyable de Patrick Anderson. Mais c'est Schalke qui est dans tous les cœurs de la Bundesliga, le champion cette année-là. Et puis ce week-end, il y a eu un hommage unanime pour cet homme qui est donc décédé la semaine dernière, qui est connu visuellement de tous les gens du football européen pour ses énormes cigares qu'il amenait sur le terrain. Et il disait, la seule chose qui est autorisée avec moi comme manager, c'est la possibilité de fumer et d'être fumeur. C'est un très grand homme, l'égal d'Uli Hoeness en Allemagne.
Il aurait dû connaître Verratti, lui.
Ou Fabien Barthez.
Ou d'autres, sportifs.
Ou d'autres. Zidane fume.
Angelo Di Livio.
Voilà, je pense que c'était le moment de rendre hommage à cet homme-là, parce que s'il y a eu des brassards noirs en Bundesliga.
Il l'a bien vendu, hein.
Bah, oui.
Un mec qu'on connaissait pas il y a 5 minutes.
Rudi Assauer. Ah oui, mais c'est une légende en Bundesliga. On pouvait pas ne pas en parler.
Bravo Lorto. Chapeau l'artiste.
Et il y a son portrait sur les écharpes qu'on peut acheter à Schalke, et il y a très très peu de managers, pour pas dire aucun dans le foot mondial, qui a son portrait sur les écharpes.
Manager, oui, c'est vrai que normalement c'est pas.
Ouais.
Un mythe.
C'est vrai, ça. Ouais.
Zidane à Madrid?
Non, manager.
Un manager.
Manager, ouais. Ouais, qui est rentré dans ce que je dis, Bernabéu, oui, mais pas Bernabéu, c'est un président.
Il a été un formidable joueur et ensuite il est passé en manager, il a jamais été un entraîneur, mais c'est un homme vraiment incroyable en Bundesliga.
Et c'est là qu'on doit prendre conscience de l'importance de ce rôle-là, trop souvent sous-estimé, et surtout dans nos clubs à nous.
Jingle Julien Laurence.
My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne, and to be Pogba on top of that. It can't be all of that.
C'était qui ce mec-là? qui regroupait toutes ses qualités.
Pogba. T'as pas compris?
C'était Pogba. C'est que les Anglais, la critique la saison dernière sur Pogba, c'était qu'ils voulaient qu'il fasse tout ça.
Moi j'ai tout compris, c'est parfaitement clair.
Mais moi oui, mais pas de qui il parlait.
Bah si, il l'a dit au début.
T'as pas compris.
On voudrait de Pogba.
C'est parce que c'était dit au début que le début je l'ai pas entendu.
Rien à voir. Tu voulais parler de Chelsea.
Et bah oui, forcément, on est obligé d'en parler. Hein, cette défaite incroyable de Chelsea, la pire, la plus lourde dans l'histoire de la Première Ligue, la plus lourde en championnat depuis 1991, donc juste avant la création de la Première Ligue comme on la connaît aujourd'hui. 6-0, effectivement, une humiliation totale, surtout 10 jours après la défaite 4-0 à Bournemouth, qui a été aussi choquante, voire humiliante pour d'autres raisons, parce que c'était Bournemouth à l'extérieur, mais là, c'est vrai qu'à City, c'est encore plus marquant.
Et là, on se dit, il y a un problème.
Voilà, le débat qu'on a souvent eu nous aussi dans l'émission, mais encore plus là en Angleterre ces derniers depuis dimanche après-midi, c'est est-ce que Chelsea va se séparer de Sarri maintenant? Est-ce qu'il faut lui donner un petit peu plus de temps? Est-ce que lui doit apprendre à changer aussi?
Il peut résister à ça là quand même.
C'est compliqué. Abramovich a pris un peu de recul hein, sur les dernières années. Par exemple, on prend beaucoup ici l'exemple de Scolari il y a 10 ans qui avait été viré. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, enfin, il y a 10 ans, le week-end dernier, là, alors qu'il était dans une meilleure situation au niveau du classement par rapport à ce que Sarri est aujourd'hui, où l'équipe avait moins perdu que celle de Sarri cette saison, par exemple. Et donc, beaucoup de gens ont dit, ben voilà, Scolari avait pas résisté alors qu'ils étaient quatrième à l'époque, ça va être difficile pour Sarri de résister. Et Abramovich a pris un peu plus de recul qu'à l'époque de Scolari, notamment, et d'autres qui avaient été virés très rapidement. On se rappelle de Carlo, notamment, hein, Fredo, qui avait été viré alors qu'il avait fini deuxième.
De la décision là rapide de le virer genre en cours de temps de saison.
Bah ça reste Abramovich quand même, ouais. Parce que Marina Granovskaya, qui est la directrice générale du club, qui est vraiment celle qui s'occupe du club au jour le jour, ne peut pas dire à Abramovich, bah voilà, tu vas faire ça, tu vas le virer. Moi je pense qu'ils vont lui donner encore un petit peu de temps, mais du temps il en aura pas beaucoup hein. La défaite de dimanche, c'est une humiliation totale.
Ouais, s'ils prennent encore une défaite, t'as comment tu veux qu'ils résistent?
Ouais, c'est sûr. C'est plus, si tu veux, le manque de flexibilité, en fait. C'est qu'il continue à s'entêter dans ce système, le 4-3-3, et sa façon de jouer, qui, effectivement, a très bien marché. Exactement, à Empoli et à Naples. On comprend très bien, ici, en Angleterre, que c'est sa philosophie, son idée de jeu, etc. Mais Conte, il est arrivé en Angleterre, il avait une façon de jouer, et quand il a vu que ça marchait pas, il a changé, il a été champion en fin de saison.
Ouais.
Ça veut pas dire, c'est pas
une raison. Voilà, je suis pas sûr qu'il puisse changer, mine de rien. Son expérience n'est pas non plus immense dans le foot. Il est arrivé tard. En plus, il a toujours connu des bons moments. Voilà. Il a toujours été félicité pour ce qu'il tentait. Et il se retrouve en Première Ligue, un championnat ultra concurrentiel, et tu lui demandes de s'adapter et tout. C'était déjà un pari assez audacieux, hein, de le tenter si vite, hein.
Après, Guardiola, c'est pour ça, une saison pour s'adapter.
Ouais, mais Guardiola, ce que Guardiola a fait avant, c'est parce que
Sarri arrive avec un CV vide, un palmarès vide. CV, non, pas vide, mais quand même.
Non, mais c'était un pari, Sarri.
Après,
je suis pas sûr que.
Une chose, en Italie, on parle énormément des Sarri. Deux choses. Première, il y a un calendrier des malades pour Chelsea qui peut-être empêche de prendre une décision. C'est important, vu qu'il y a les doubles confrontations avec Malmo. Il y a Manchester United et après il y a City, la finale des coupes. Donc, c'est pas si simple de tout changer. Deuxième chose.
Ouais, mais il prend des tôles, quoi. Il prend des défaites contre les équipes de merde. Il prend 6-0 dans un match.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'il y a un problème même avec les mecs. Ça veut dire, après, il faut dire une chose, moi franchement je l'ai dit mille fois, je le répète, que ce soit Arsenal ou Chelsea, il y a des joueurs dans ces deux équipes là qui franchement sont pas des cracks et des top niveaux. Tu regardes la défense aussi bien, bon, je le dis souvent d'Arsenal, mais tu regardes la défense de Chelsea, Pierre, tu les commandes, Rudiger, David Luiz, franchement les mecs ils sont un peu cramois.
Il
a plus qu'un genou, il a plus qu'un genou déjà, donc c'est plus dur.
Ah, mais si, il peut jouer avec une jambe, mais
David Luiz.
Non, après, tu joues sans défense, quoi. Bon, tu me diras, on le dit aussi de Manchester United.
Ouais,
qui joue sans défense centrale. Mais mine de rien, c'est vrai, ça fait quand même trois clubs importants de la Première Ligue où défensivement, il n'y a pas de monstre.
Il y a des choses à dire sur Chelsea. Juste, la semaine prochaine, il y a les procès qui commencent pour Conte qui demandent 23 millions d'euros. Après les limogeages, tu as 23 millions à payer à Conte peut-être, si tu vires Sarri.
Ah oui, ça fait
encore 2 ans et demi de contrat à 6 millions. Ça commence à faire 30-40 millions. Claude Puel pourrait...
Ah, il a pris une vague, hein, là.
Pourrait se faire virer?
Ouais, mais alors rapidement, parce que je sais qu'on n'y reste plus beaucoup de temps, mais moi j'ai trouvé ce match fascinant dimanche entre Tottenham et Leicester, parce que Leicester a très bien joué déjà, parce que Puel avait décidé de mettre sur le banc Jamie Vardy, qui est donc leur attaquant habituel, tout le monde connaît, mais qui est surtout très apprécié des supporters, etc., pour mettre le jeune Damari Gray en avant-centre, alors que lui est plutôt un ailier, mais Puel voulait tenter quelque chose du divan, ça a quasiment marché, sauf que ça a pas marché. Justement, c'est ça, parce qu'ils ont perdu 3-1.
Ça a presque marché.
Mais tu vois là où je venais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que à 2-0 pour Tottenham, il y a un penalty pour Leicester. Le tireur de penalty à Leicester, c'est Jamie Vardy. Puis elle va le voir, lui dit tu veux tirer le penalty. Jamie Vardy lui dit je veux tirer le penalty. Il fait entrer Jamie Vardy juste pour tirer le penalty. Mmh. Donc Jamie Vardy entre sur le terrain, il a pas touché le ballon encore, il prend le ballon, il pose le ballon sur le point de penalty, il tire, Lloris l'arrête. Jamie Vardy marquera après un but, mais ils perdront quand même 3-1. Tu peux te dire quand même que ils étaient dans une bonne période, ils ont vraiment bien joué, moi je trouve. Hein. Sauf qu'il a perdu.
Tu sais quoi, comme contre Manchester, comme contre Liverpool,
le Leicester de Claude Puel et Jackie Bonnevay.
Non, mais c'est surtout que Peter Schmeichel lui a rentré dans la gueule, quoi.
Ben en plus, et puis il a les supporters contre lui maintenant. Ils ont gagné contre les gros puisqu'ils ont battu City, ils ont battu Chelsea. Ils ont perdu contre des petites équipes. C'est dur pour lui. J'espère qu'il restera là au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est vrai qu'il est de plus en plus en danger.